Vasudevaya.
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
श्रील प्रभुपाद की
जय।
जय। Alors, on va commencer à la page 193, le point 9.4. Virginie, s'il vous plaît.
Hare Krishna.
Hare Krishna.
9.4. Pour mettre fin à cette répétition de mort et de renaissance et à leur corollaire, la vieillesse et la maladie, nous devons essayer d'atteindre les planètes spirituelles pour y vivre auprès de Sri Krishna ou de ses innombrables émanations plénières, les Narayana. La seule et unique solution au problème inhérent à l'existence matérielle est de retourner auprès de Sri Krishna ou de ses innombrables émanations plénières, les Narayana. À cette fin, nous devons nous convaincre que notre salut dépend de notre sincère aspiration à devenir des purs bhaktas. L'énergie matérielle nous a bien dorlotés et du même coup assommés. Nous devons nous relever et emprunter avec détermination la voie de la bhakti malgré tous les obstacles que peut nous tendre cette énergie. Le programme est simple pour les âmes sincères qui ont compris de ne s'en tenir dans la vie qu'à suivre les instructions de leur maître spirituel, ce qui leur assurera un retour auprès de Sri Krishna ou de ses innombrables émanations plénières, les Narayana. La voie est d'autant plus facilitée en prenant refuge de l'association des dévots dans ce grand mouvement pour la conscience de Krishna, l'ISKCON. Mis à part ce mouvement, ce sera très difficile d'en trouver du pareil. Pourquoi? Parce que tel que Srila Prabhupada le disait, ce mouvement est autorisé. Ce mouvement est spécialement béni du Seigneur Chaitanya. Ça dit tout. En essence, dans ce mouvement, il n'y a pas de place pour les actes intéressés. Comme tel, c'est la garantie désirée pour retrouver sa place en compagnie du Seigneur dans le monde spirituel. Faut y adhérer pour le croire.
Jai, merci beaucoup. Hare Krishna.
Hare Krishna.
Om Gyanatimanandasya Gananjana Sanakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Alors, ce qui est intéressant, c'est la seule façon de régler le problème de la naissance et la mort répétée. Il n'y en a pas 36. Il y en a juste une façon. C'est de retourner à Krishna. Ou même pour les impersonnalistes qui veulent se fondre dans l'effulgence du Brahman. Eux autres aussi, ils ont compris que c'est en dehors de l'atmosphère matérielle qu'est la libération. Mais leur libération n'est pas permanente. C'est sujet à tomber de cette libération parce que ils ont négligé de prendre refuge au pied pareil au lotus de Krishna. Alors, retourner à Krishna, qu'est-ce qu'il faut faire avant de retourner à Krishna? C'est quoi la logique? La question est posée.
Se purifier.
Oui, et comment?
En dévouant tous ses actes à Krishna et au maître spirituel.
Oui. Alors,
Tout
pour retourner, oui.
est... J'allais dire, toute identification matérielle, il faut l'éliminer de notre conscience.
D'accord. Mais tout ça, c'est possible. D'un seul coup,
En s'abandonnant.
en méditant constamment sur les pieds pareils au lotus de Krishna. Alors, c'est Krishna, ses pieds pareils au lotus sont la source de toute connaissance, de toute félicité, d'éternité, Et il n'y a pas moyen de passer à côté. Alors, si on veut retourner à Krishna, ben, il faut faire comme les dévots qui sont déjà rendus là-bas, c'est-à-dire qu'ils n'oublient jamais les pieds pareils au lotus de Krishna. Hein, le processus est très simple. Alors, c'est pour ça. La question est posée, qu'est-ce qu'il faut faire avant de retourner à Krishna? Ben, c'est méditer constamment sur les pieds pareils au lotus de Krishna. Et cette méditation fait en sorte que, comme on pourrait dire, du jour au lendemain, un dévot peut retourner à Krishna sans difficulté, parce que, justement, il a fixé Krishna dans son mental. Alors, Krishna dit dans la Bhagavad Gita que quelqu'un qui se souvient de lui et de lui seul au moment de la mort atteint sa nature, c'est-à-dire qu'il retourne à Krishna. Et comme Krishna dit, de cela, il n'y a aucun doute. Alors, dans cette vie-ci, notre pratique du service de dévotion, le critère de succès, c'est dans la mesure où on devient capable de se rappeler de Krishna, à chaque pas dans tout ce que nous faisons. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires?
On dit qu'il n'y a rien d'autre que Krishna. Si on se rappelle de Krishna, puis notre vraie nature, c'est de l'énergie Krishna, il n'y a que Krishna. C'est ça que le point principal, non?
Oui, c'est ça.
Juste ça.
Bon, Prabhupada, il a écrit en quelque part, il n'y a que Krishna et tous les autres sont insignifiants.
Mais il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres. Ça n'existe pas, là, les autres. C'est juste Krishna.
Oui, mais les autres sont des parties, des parcelles de Krishna.
C'est ça.
Alors, si on les voit comme des parties, des parcelles de Krishna, ben, on voit Krishna aussi. Disons, c'est le tout complet, c'est Krishna. Alors, la Shri Upanishad, Om Purnamada Purnamidam, le tout complet, c'est Krishna. Alors, voilà. Et on est, en tant que partie et parcelle de Krishna, on est c'est notre devoir, en fait, parce que Krishna veut ça comme ça, justement, qu'on le serve avec amour et dévotion. C'est ça qui va faire plaisir à Krishna. Alors, on peut pas, disons, échapper à ce désir de Krishna sans en encourir des conséquences. Alors, si on est conscient de Krishna, on sait Krishna dans la conscience de Krishna, avec conscience de Krishna, on se purifie, on agit purement, et puis on devient éligible pour être dans la compagnie de Krishna, et cette compagnie-là demande la pureté. T'sais, on ne peut pas aller au monde spirituel en pensant que, ah, on va rester attaché à des activités pécheresses quelconques, puis on va penser à aller au ciel, puis on va aller au ciel. C'est trop simple. Il faut que la purification du cœur soit là, et le chant du Mahamantra, ça purifie le cœur, comme le Seigneur Chaitanya le dit. Cheto Darpana Marjanam, ce chant nettoie le miroir du mental. Et nous permet, disons, à la fin, de goûter au nectar dont nous languissons sans cesse, qui est en fait Krishna et tout ce qui est autour de Krishna, les dévots, les déités, le temple, le prasad, ainsi de suite. La vie spirituelle, c'est une vie de félicité et il n'y a pas d'équivalent ou de remplacement nulle part dans la vie matérielle. Alors, c'est ça la beauté de la conscience de Krishna, c'est qu'une fois que nous avons découvert la conscience de Krishna, et comme Krishna dit, son endroit à lui, sa planète à lui, son lieu à lui, c'est un endroit d'où l'on ne revient pas. Alors, la vie spirituelle, c'est, faut vraiment être, si on peut dire, emberlificoté par l'énergie matérielle pour laisser de côté la conscience de Krishna. Il doit avoir des offenses en quelque part qui se sont commises, qui fait que quelqu'un, pour une raison ou pour une autre, même s'il a connu la conscience de Krishna, désire s'en éloigner pour une raison ou une autre. Mais, par la grâce de Krishna, tout est possible de faire revenir à lui une âme qui s'est égarée, et Krishna va prendre les moyens. Il va pas laisser un dévot s'en aller comme ça. Alors, il va montrer au dévot que ça ne paye pas de s'éloigner de la conscience de Krishna. Alors Krishna va créer des embûches, des tribulations pour un tel dévot. Puis finalement, le dévot va finir par comprendre. Moi, je pense que je suis mieux d'être conscient de Krishna que pas conscient de Krishna. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
J'en aurais une sur les impersonnalistes qui se veulent fondre dans l'énergie de Krishna au total. Puis nous donne, Prabhupada, la comparaison, une goutte d'eau de l'océan, c'est salé, mouillé comme l'océan, qualité égale.
Ouais.
Mais elle se fond, elle, la goutte d'eau indirectement devient, veut dire, part de l'océan, mais elle garde son identité.
Ouais.
On est 100% Krishna, c'est dans ça, là, c'est comme, ah, c'est casse-tête pas mal, là.
Non, il faut comprendre l'explication de Srila Prabhupada. C'est qu'on ne peut pas se comparer à une goutte d'eau parce qu'une goutte d'eau est individuelle. C'est sûr que, ça c'est l'argument des impersonnalistes. La goutte d'eau se fond dans l'océan, elle devient l'océan. Mais on n'est pas une goutte d'eau. On est une entité vivante, éternelle, immuable, ça veut dire qu'il ne peut jamais changer, qu'il a toujours son individualité. Alors, se fondre dans Krishna, pour un dévot, c'est fondre ses désirs avec les désirs de Krishna. En d'autres mots, le dévot veut servir Krishna, et c'est juste ça qu'il veut. Mais il ne perd pas son identité, son individualité. Sinon,
mais s'il n'y a rien d'autre que Krishna, il y a juste Krishna qui existe. Il n'y a rien d'autre.
Oui, il y a Krishna. Il y a Krishna qui existe, mais Krishna a ses manifestations. Alors, il y a des manifestations de Krishna qui sont dites plénières, c'est-à-dire ce sont d'autres formes de Krishna qui sont aussi puissantes que Krishna, ou partiellement puissantes comme Krishna, comme par exemple Seigneur Brahma. Il y a différentes incarnations de Krishna. Il y a les Vishnu Tattva, il y a aussi des Guna Avatar, le Seigneur Shiva, le Seigneur Brahma, qui sont très puissants, mais qui sont pas à 100% Krishna. Et il y a les âmes individuelles qu'on appelle l'énergie de Krishna, qu'on appelle ta shakti. C'est la shakti des âmes individuelles qui sont des parties, des parcelles, des fragments de Krishna éternels. Alors, ces âmes spirituelles-là sont l'énergie marginale de Krishna. Mais elles ne sont pas identiques à Krishna. Ça répond,
si on se réveille, si on se réveille qu'on est une parcelle de Krishna, comme l'étincelle dans le feu, okay, on se réveille, on est parti, mais on n'est pas quelque chose d'autre. C'est comme, C'est casse-tête, là.
Ben, on a une partie, une
C'est vraiment
parcelle.
dur
Comme Prabhupada donne l'exemple, l'étincelle qui tombe en dehors du feu perd ses qualités de chaleur et de lumière aussitôt, parce qu'elle est tombée en dehors du feu. Alors, de la même façon, lorsqu'il y a un manque de conscience de Krishna, ben, on perd nos qualités spirituelles originales deviennent voilées par l'énergie matérielle. Mais on est toujours une partie, une
qui est toujours
parcelle de
Krishna,
Krishna.
l'énergie matérielle, mais c'est juste notre conscience qui est pas en égalité avec la réalité éternelle.
Ouais, on est, notre conscience est très limitée. La conscience de Krishna lui-même, la personne Krishna, est illimitée. Krishna est omniprésent, il est conscient de tout ce qui existe n'importe où, alors il est omniscient, mais l'âme individuelle n'a pas ces caractéristiques-là. Elle est consciente en quantité minimum. Et ce minimum-là, elle est consciente du bonheur ou des souffrances de son corps, simplement. Mais elle ne connaît pas les souffrances et les bonheurs de d'autres corps. Mais Krishna, oui, parce qu'il est omniprésent. Il est dans le cœur de chaque être vivant en tant qu'âme suprême. Il est même présent dans l'atome et entre les atomes. Ça, une âme individuelle ne peut pas faire ça. Alors, notre position, c'est d'être simplement un humble serviteur de Krishna et puis implorer sa grâce, sa miséricorde de toujours être conscient de le servir. Et puis, c'est pour ça qu'on chante Hare Krishna. Hare Krishna veut dire, oh Seigneur.
C'est quoi alors l'état que l'être individuel doit avoir pour être serviteur de Krishna constant? Quel état d'esprit il faut manifester?
L'état d'esprit qu'il faut avoir, faut commencer par le commencement. Et ce genre de commencement-là, c'est la continuité par après. En d'autres mots, une fois que une âme individuelle est venue en contact avec un pur dévot de Krishna, qui lui met les pendules à l'heure par ses enseignements, alors le maître spirituel, lui, il enseigne que chaque âme individuelle, elle est individuelle, elle est une parcelle de Krishna, et que c'est sa position véritable, originelle, c'est d'être serviteur de Krishna. Alors, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, lui, le définit. Jivera Swarup Oy Nitya Krishna Das. L'âme individuelle, elle est éternellement Krishna Das, serviteur de Krishna. Il est défini par le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu lui-même. Et est-ce qu'il y a des preuves matérielles à cet effet-là? Si on veut en trouver, ben on peut essayer de passer du temps là-dessus. Si le Prabhupada donne certains exemples. Comme par exemple, tout le monde est serviteur. Monsieur A sert Monsieur B, Monsieur B sert Monsieur C, ainsi de suite. Prabhupada donne un exemple. Un politicien veut avoir des votes, alors il va dire aux gens, je vais vous promettre de vous servir en faisant ceci, en faisant cela. C'est du service. Personne n'est capable d'autre chose que faire du service. Personne n'est maître de quoi que ce soit. Et c'est simplement que chacun est un serviteur. Alors, si on veut se croire un maître de quelque chose, à ce moment-là, on va servir, mais servir ce genre d'illusion-là. On n'est pas maître. Pardon?
Le service qu'on parle, On peut utiliser maintenant notre corps, nos choses ici physiques dans le monde matériel pour servir, mais on est conscience. Comment une conscience qui est seulement conscience, comment faire le service?
Fait le
Conscience.
cerveau. On peut pas séparer, disons, si on parle de conscience de Krishna, on peut pas séparer la conscience de Krishna de du fait d'être guidé par un maître spirituel, excusez, qui est, comme on dit, le digne représentant de Krishna. Alors, si le représentant de Krishna nous éclaire sur les choses telles qu'elles sont, qui est Krishna, quelle est notre relation avec Krishna, et cette relation-là est une relation de service, pas un service intéressé, mais un service dévotionnel.
Comment on le fait si on n'a pas de. On est une petite atome microscopique, on voit même pas comment cet atome peut faire le service, veut dire de quelle façon que.
Mais je comprends pas, en fait. Tu as des attributs, tu as un corps,
Pas
tu as un
une
mental,
conscience, une
donc tu sers le
conscience.
Seigneur suprême avec tes attributs. Enfin, je.
C'est comme la vie en ce moment. La vie, c'est seulement une sensation qu'on vit à travers nos sens, de toucher, de regarder tout ça. L'âme reçoit juste les sensations que le corps prend comme expérience. Alors, la vie, c'est juste une
Non,
sensation. Alors,
non, 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 c'est pas
non.
complet. C'est pas complet, cette interprétation-là, dans le sens que si on veut un texte pour nous situer où est l'âme, il y a un texte merveilleux de Srila Prabhupada qu'on appelle son explication du Mahamantra. Alors, dans ce texte-là, un texte classique, un texte qui, disons, qui peut être facilement retrouvable sur l'Internet, juste, mettons, faire une recherche, chercher Hare Krishna Mantra, mettons, Prabhupada, devriez être capable d'arriver à trouver ce texte-là, dans lequel Prabhupada explique que le chant du Mahamantra se trouve au-delà des niveaux inférieurs de conscience que Prabhupada explique. Les niveaux inférieurs de conscience sont le niveau sensuel, le niveau mental, le niveau intellectuel, mais au-delà de ça, il y a ce que Prabhupada appelle le niveau transcendantal, c'est-à-dire le niveau de l'âme. Alors, comme Prabhupada explique, ce Mahamantra se situe au niveau de l'âme, au niveau transcendantal, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de comprendre la langue dans laquelle est prononcé le Mahamantra. Et spontanément, même des enfants en viennent à chanter et danser d'extase simplement en écoutant et en chantant le Mahamantra. C'est spirituel. Notre âme relate avec le Mahamantra. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'explications pour ça. Juste, mettons, l'avoir expérimenté, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin de donner beaucoup, beaucoup d'explications parce que le Mahamantra est fait pour quoi? Pourquoi qu'il y a le Mahamantra? Il est fait pour quoi?
Réveiller notre vraie nature.
Il est fait pour être chanté. C'est le Mahamantra. Alors, c'est comme par exemple, si on dit l'eau est faite pour quoi? Ben, l'eau est faite pour plusieurs choses, là, mais mettons, on peut en donner quelques explications. L'eau est faite pour être bue. L'eau est faite pour faire pousser des aliments. Il y a beaucoup de choses à quoi sert l'eau. Mais le Mahamantra, si on enlève La dimension que le Mahamantra est fait pour être chanté, est fait pour être prononcé, par exemple, Japa. On enlève Kirtan, on enlève Japa. À quoi sert le Mahamantra?
Mais le penser et le chanter, c'est pas la même chose. Si on le dit pas fort dans la tête, est-ce que c'est...
Je comprends ça. Mais Prabhupada a répondu à un dévot qui justement faisait un commentaire à ce sujet-là. Et Prabhupada a répondu, quand vous voulez manger, est-ce que c'est la même chose, penser manger ou manger pour le vrai? Alors le Mahamantra, d'après les explications d'un grand dévot comme Srila Jiva Goswami, le Mahamantra est fait pour être chanté fort. C'est son explication. Alors oui, en certaines circonstances, surtout si on n'est pas capable de chanter fort, on va chanter dans son mental. Et ça aussi, c'est bon. C'est pas condamné, mais il y a une différence entre chanter fort et puis chanter dans sa tête simplement. Alors, il faut faire l'expérience soi-même, dans le sens que si tu fais toutes sortes de choses, disons, puis tu dis, ah, moi, je chante dans ma tête, mais arrête 2 minutes, puis là, commence à chanter fort. Tu vas voir qu'il y a une différence entre les deux.
Plus de goût.
Ben, c'est une différence de concentration. Parce que quand on chante Hare Krishna, surtout si on chante Japa, on est censé méditer sur la vibration sonore. Alors, ça, c'est différent de simplement chanter dans sa tête ou penser à chanter. Parce que la vibration sonore, qu'est-ce que ça implique? Ça implique méditer sur la vibration sonore. Ça implique une réflexion qui veut que quand on chante Hare Krishna, on est supposé d'être dans l'esprit d'éviter les offenses au saint nom. Alors, chanter dans sa tête, là, c'est pas nécessairement que ça amène une réflexion. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Non, ça veut dire que tu restes toujours, donc c'est mon opinion, là, tu restes dans ton cocon, et puis, ça vaut ce que ça vaut. Krishna, il voit. On veut pas condamner cette activité mentale de méditation. Mais si on chante vraiment assez fort pour s'écouter, chanter le Mahamantra, il faut qu'on réfléchisse parce que justement, il y a ce qu'on appelle Namabhasa, chanter le Mahamantra avec offense. Mais on doit graduellement se purifier des offenses et progresser vers un chant pur. Et le chant pur de toute offense, ce n'est pas le but ultime non plus. Prabhupada explique, au-delà d'arriver au stade de ne plus commettre d'offense, il y a justement ce qui est appelé chanter purement le saint nom de Krishna, sans offense. Alors, il y a 3 étapes. Il y a 1 étape, c'est avec offense. La 2e étape, c'est sans offense. Et la 3e étape, c'est avec pureté. Il n'y a pas d'offense. Alors, on chante avec Krishna, et puis on sent Krishna en chantant avec Krishna.
Et comme on utilise le corps pour chanter Hare Krishna, l'âme, elle, qu'est-ce que elle vit à travers? Parce que l'âme n'a pas d'oreille, n'a pas de main, peut-être en a, j'ai aucune idée, là. Mais comment, qu'est-ce qu'elle reçoit à travers la vibration du Mahamantra?
C'est qu'elle éveille sa conscience endormie, qui est sa conscience de Krishna, qui est tombée endormie depuis longtemps, longtemps, longtemps. Alors, de dire que l'âme n'a pas de sens, n'a pas de corps ou de forme, c'est pas exact. Parce que quand l'âme devient complètement libérée du corps matériel, le corps matériel va périr et l'âme va retourner au monde spirituel où elle obtient ou elle retrouve, si vous voulez, son corps spirituel original.
On ne sait pas comment qu'il est, par exemple.
Parce que ça ne nous est pas révélé. Si, par exemple, quelle est notre relation avec Krishna? Pour le moment, c'est oublié, mais ça peut être révélé si un dévot devient un pur dévot. Alors, il y a 5 relations directes avec Krishna. Une de neutralité, une de serviteur, une d'amitié, une de parent avec Krishna et une d'amour conjugal avec Krishna. Il y a 5 relations directes avec Krishna. Et dans le monde spirituel, ben, les êtres-là sont engagés dans une de ces 5 relations directes avec Krishna. Alors, comme Prabhupada explique, si on retourne à Krishna, ben, on peut voir Krishna face à face. On peut parler avec Krishna face à face. Ce qui n'est pas le cas dans notre vie conditionnée. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut avoir foi dans le processus et puis progresser spirituellement. Et en temps et lieu, toutes les choses vont être révélées aux dévots.
Prabhupada, lui, était comme, je sais pas si on dit le mot réveillé, mais il voyait Krishna, veut dire, différent que l'être, la majorité des êtres n'ont pas, veut dire, encore développé ces qualités divines de sentir le divin dans tout, le voir partout.
Oui, mais Srila Prabhupada, c'était un pur dévot.
Oui, c'est ça. Alors, c'est notre but, c'est d'arriver à cet état-là, de voir que partout, veut dire, si Dieu nous permet de le voir partout, veut dire, dans toutes ses formes, que ce soit matériel ou whatever.
Oui, mais Prabhupada explique aussi dans le mantra 5, teneur et portée de l'Upadeshamrita, Prabhupada explique, le dévot néophyte, qui est appelé Prakrita Bhakta, le dévot néophyte, lui, voit Dieu présent dans le temple sous la forme des murtis. Mais il voit pas plus loin que ça. Le Madhyamadhikari, dévot de niveau secondaire ou intermédiaire, lui, il voit Krishna partout. Mais il ne voit pas Krishna face à face. Mais il voit Krishna partout. Et le Uttama Adhikari, le pur dévot de Krishna, non seulement il voit Krishna partout, mais il voit Krishna face à face. Alors, il y a une différence, une gradation entre les 3 types de dévots, Kanishta, Madhyam et Uttama. Alors, Srila Prabhupada était un dévot qu'on peut appeler Uttama Adhikari, c'est-à-dire une âme libérée, un dévot qui est au sommet de la réalisation spirituelle. Et en plus, Prabhupada était ce qu'on appelle un Shaktyavesh Avatar, c'est-à-dire un être mis en pouvoir spécialement par Krishna pour accomplir une mission particulière. Et la mission de Prabhupada, c'était justement d'écrire les livres qu'il a écrits, les traductions du sanskrit en anglais. Cette mission-là lui a été confiée par son maître spirituel. Et en fait, c'était l'essence, le rôle principal de la mission de Prabhupada sur Terre, c'est ses livres avec lesquels il a fondé le mouvement Hare Krishna. Alors, comme Prabhupada disait, s'il n'y a pas de livres, le mouvement va s'effondrer. C'est pour ça que dans le mouvement de la conscience de Krishna, il y a une importance capitale qui est accordée à l'impression des livres de Srila Prabhupada.
La distribution des livres
La
avec
distribution des livres,
leur diffusion, oui, c'est très important. La diffusion, ça lui tenait, c'était son principal objectif, hein, diffuser ses livres. Diffuser.
exactement. Et les matérialistes, disons, avec la mentalité matérialiste remplie d'envie, à un moment donné, dans les années 70, ils étaient jaloux de voir l'opulence, les richesses du mouvement Hare Krishna. Alors pour eux autres, ils disaient, ah, les Krishnas sont très riches. Comment ça se fait que pour des gens qui sont supposés d'être pauvres, d'être simples, ils ont tellement de richesses? Ça, c'est l'envie.
Oui, parce que
Mais la richesse des dévots, le concept de richesse des dévots, c'est que la richesse appartient à Krishna. La richesse peut venir comme la richesse peut partir. Mais s'il y a de la richesse dans le moment présent, ben, c'est de l'utiliser au complet pour Krishna. Alors, comme Prabhupada donnait un exemple, si tu donnes à un dévot 100 000 roupies, le dévot va le prendre. Mais une minute après, le dévot est à 0 roupies. Parce qu'il a engagé les 100 000 roupies au service de Krishna. Alors, un autre exemple, c'est les 6 Goswamis. Les Goswamis, il y avait Sanatan Goswami, Rupa Goswami, qui étaient des ministres à l'époque, il y a 500 ans de ça. Et ils ont rencontré le Seigneur Chaitanya et ils ont voulu joindre le Seigneur Chaitanya et ils ont partagé leur richesse qui était très grande. Même en termes d'aujourd'hui, là, ils étaient millionnaires, eux autres, là, même plus que ça. Alors, ils ont partagé et ils ont fait la charité à des brahmanas. Ils ont partagé 25% pour ceci, 25% pour cela, et 25% en dernier, juste pour des urgences personnelles en cas de besoin. Et c'est tout. C'est-à-dire, le trois quarts de leur fortune est parti pour la cause de la conscience de Krishna. Alors, Prabhupada dit, c'est l'exemple qu'on devrait suivre. Alors, évidemment, les dévots sont pas plus riches qu'il ne faut. Alors, même on peut dire avec certains dévots, peut-être même plusieurs dévots, joindre les deux bouts, c'est déjà un exploit en soi. Alors, ça demande du jugement, c'est laisser au jugement des individus de savoir comment ils vont, disons, partager leur richesse pour faire sous une certaine forme de charité qui s'en va vers la conscience de Krishna. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
J'en ai plein, mais on va arrêter.
OK.
Et de toute façon, juste pour il faut de l'argent si on veut imprimer des livres, il faut de l'argent si on veut faire des temples et entretenir les temples. Donc de toute façon, c'est important aussi. Mais c'est pas l'enrichissement qui est à l'ordre du jour à ISKCON, quoi. C'est vraiment de l'argent pour faire évoluer le mouvement. C'est juste ça.
Exactement, exactement.
Il n'y a pas d'enrichissement personnel comme on a pu voir dans les années 70, comme tu cites là, des gourous qui sont apparus nulle part et qui vivaient dans des palais, qui étaient servis par des gens comme prêtres pratiques. Voilà, là c'était vraiment l'ego qui était flatté, et il n'y avait aucune religiosité dans les actions. Tandis que l'ISKCON, d'ailleurs, c'est vraiment pour faire évoluer le mouvement et que la conscience de Krishna soit vraiment dans le monde entier. Puisque c'était la volonté de Krishna, s'il nous a envoyé Srila Prabhupada, c'était que ça dépasse les frontières de l'Inde, en fait.
C'est ça. Et Krishna, s'il voit que il y a des méconceptions au sujet de l'argent, l'usage de l'argent, même dans ISKCON, c'est sûr que Krishna va corriger le tir et qui fait que les dévots vont avoir disons, de la difficulté. Et ça, ben, c'est des choses, disons, on peut dire qu'il arrive dans ISKCON à cet effet-là et que c'est quoi le remède, c'est quoi la solution? La solution, c'est d'arriver au point où il y a eu, où il y a une déviation par rapport aux instructions de Prabhupada, c'est tout. C'est aussi simple que ça, là. Alors, normalement, si des dévots commencent à partir de zéro, la propagation de la conscience de Krishna, Lakshmi va venir. C'est aussi simple que ça.
La déesse de la fortune.
Oui, la déesse de la fortune va venir. Alors, évidemment, ça prend, comme Prabhupada dit, pour les leaders du mouvement de la conscience de Krishna, il faut que ça soit fait avec intelligence. Et Prabhupada était conscient que l'intelligence qu'il faut pour être un bon administrateur dans le mouvement de la conscience de Krishna, c'est pas ce qu'il y a de plus fréquent. Alors, comme Prabhupada, dans le temps, dans les années 70, il était très content d'un dévot qui était administrateur au temple de Los Angeles, qui s'appelle Karandar. Et Prabhupada lui-même disait que ça, c'était un bon manager, un bon administrateur. Mais c'est pas tout le monde qui est de ce calibre-là. C'est pas tout le monde qui est capable, disons, d'entraîner un paquet de dévots qui vont faire un succès de ISKCON. C'est pas tout le monde qui a ce don-là. Mais c'est à espérer qu'il y ait des dévots qui se qualifient pour justement pousser avec succès la conscience de Krishna. Alors, il y a des endroits dans le monde où c'est le mouvement est plus florissant qu'ailleurs, comme par exemple en Russie ou dans les pays justement d'Europe de l'Est. C'est très, très fort la conscience de Krishna. En Angleterre, c'est très fort la conscience de Krishna. Alors, il y a des exemples, même en Inde, à Vrindavan, à Mayapur, la conscience de Krishna est très florissante et sûrement que cela a à voir avec le fait que les dirigeants suivent les instructions de Prabhupada, c'est tout. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? OK, on va continuer. Le point 9.5, Ananda.
Oui, Hare Krishna. 9.5. La souveraineté de Krishna et de ses émanations sur ces planètes est confirmée par les Shruti mantras dans ces termes. Eko Vashi Sarvagaha Krishna Idya Eko Pisan Bauda Yo Vabati Gopala Tapani Upanishad 1.3.21. Le but de la vie humaine est de connaître Krishna. Tout compte fait, après avoir tout essayé sur le plan matériel, s'être planté sur toute la ligne en actes intéressés et leurs actions de, et leurs, et leur réaction de vie en vie. Bhaunam Jamanam Ante, Bhagavad Gita 7.19. L'homme sage s'abandonnera à Krishna. Et qui dit abandon à Krishna dit apprendre à le connaître en profondeur. Et jusqu'où va la profondeur? Elle va là où se tient notre cœur. Notre cœur et nos désirs sont à la même place. La condition préalable pour connaître Krishna, c'est de le désirer par-dessus tout. Krishna met donc les écritures à notre disposition afin de comprendre ce qu'est Krishna. Dans la Bhagavad Gita 11.54, Krishna dit à Arjuna comment on peut le comprendre. Bhaktya tu ananyaya shakya aham evam vido Arjuna natum drastum cha tatvena pravestum sa parantapa. Bhaktya par le service de dévotion. Tout mais. Ananyaya sans mélange avec les actes intéressés ou avec la recherche spéculative de la connaissance. Shakya possible. Aham, je. Evam vidya, comme ceci. Arjuna, ô Arjuna. Jatnatum, de savoir. Drastum, de voir. Cha, et. Tadvena, en fait. Pravestum, de pénétrer dans. Cha, aussi. Paramtapa, au vainqueur de l'ennemi. Mon cher Arjuna, ce n'est qu'en me servant avec une dévotion sans mélange qu'on peut me comprendre tel que je suis vraiment et me voir tel que je suis devant toi. On ne saurait percer autrement le mystère de ma personne, ô Parantapa. Teneur et portée. Il n'est pas d'autre moyen pour comprendre Krishna que de le servir avec amour et une dévotion sans partage. Voilà ce qu'explique ici le Seigneur de façon très nette afin de montrer aux commentateurs non autorisés qui cherchent à pénétrer le sens de la Bhagavad Gita par la spéculation intellectuelle que leurs efforts sont vains. Ils ne peuvent comprendre comment Krishna a pu paraître devant ses parents dans une forme à quatre bras et prendre aussitôt après une forme à deux bras. Cependant, ceux qui sont très versés dans l'étude des écrits védiques pourront, par maintes voies, apprendre à le connaître. Ils trouveront de nombreuses règles, de nombreux principes, auxquels ils pourront se conformer pour orienter leurs austérités. Pour faire pénitence, par exemple, ils pourront jeûner le jour de Janashtami, le jour d'apparition de Krishna, et les jours de Kadashi, le 11e jour après la nouvelle lune et le 11e jour après la pleine lune. Les actes charitables, naturellement, doivent être accomplis au profit des dévots de Krishna, qui le servent en se consacrant à la propagation de la science de Dieu, la conscience de Krishna, à travers le monde. Cette conscience de Krishna est un bienfait pour l'humanité tout entière. Rupa Goswami dit de Sri Chaitanya Mahaprabhu qu'il fit preuve de charité la plus libérale parce qu'il distribua librement l'amour de Krishna à tous les êtres, amour qu'il est d'ordinaire fort difficile d'obtenir. Ainsi, si l'on donne en charité à ceux qui répandent la conscience de Krishna, on accomplit le plus bel acte charitable qui soit. Et se vouer à l'adoration de Dieu dans un temple, dans tous les temples en Inde, on trouve habituellement des formes sculptées de Vishnu ou Krishna, conformément aux règles du culte, permet également de progresser spirituellement. Au demeurant, pour qui commence tout juste à pratiquer le service de dévotion, il est essentiel d'adorer Dieu dans le temple, ainsi que l'atteste la Shvetashvatara Upanishad 6.23 Yashya deve parabhaktir yata deve tata guru tashyate katita i arta prakanshante mahatmana. Le Seigneur se révèle à celui qui est résolu dans sa dévotion pour la personne suprême et a une foi ferme en le maître spirituel qui le guide. Sans avoir reçu une formation personnelle sous la direction d'un maître spirituel authentique, on ne peut acquérir la moindre connaissance de Krishna. Le mot « tu » employé ici indique qu'on ne peut utiliser ou recommander aucune autre méthode, qu'aucune autre ne permet de comprendre Krishna. Les formes personnelles de Krishna à deux et quatre bras diffèrent en tout point de sa forme universelle, la forme temporaire qu'il a montrée à Arjuna. Sa forme à quatre bras est celle de Narayana et sa forme à deux bras celle de Krishna. Toutes deux sont spirituelles et éternelles, tandis que sa forme universelle, manifestée devant Arjuna, n'a qu'une durée d'existence limitée. Le mot Shuddhodasham, difficile à voir, indique d'une part que nul n'a jamais vu auparavant cette forme universelle, et d'autre part que les dévots n'ont guère besoin de la connaître. Krishna a manifesté cet aspect de lui-même pour répondre favorablement à la requête d'Arjuna, et pour que l'on puisse, à l'avenir, éprouver quiconque se proclame un avatara divin en lui demandant de montrer sa forme universelle. Quant au mot « na », il est répété à maintes reprises dans le verset précédent pour indiquer que l'on ne doit pas s'enorgueillir de son instruction académique en matière d'études védiques. On doit prendre part au service de dévotion offert à Krishna. Alors seulement pourra-t-on essayer de commenter la Bhagavad Gita. Krishna passe de sa forme universelle à sa forme de Narayana à quatre bras, puis à sa forme originelle à deux bras. Il montre ainsi que ses formes à quatre bras, mais aussi toutes celles que décrivent les écritures védiques, sont des émanations de sa forme originelle à deux bras. Krishna est donc la source de toutes les émanations. Et s'il est toujours distinct de celle-ci, à plus forte raison le sera-t-il de son aspect impersonnel. Même la forme à quatre bras, celle de Mahavishnu allongé sur l'océan cosmique qui crée et résorbe d'innombrables univers en respirant, qui s'apparente le plus à la sienne, propre est une émanation de sa personne. La Brahma Samhita 5.48 dit Yashyaka Nishvashita Kalam Atavalambya Jivanti Loma Vilatya Jagad Andanataha Vishnur Mahan Sahiya Yashyakala Visheso Govindam Adi Purusham Tam Aham Bhajami. Mahavishnu, qui, par sa respiration, crée et résorbe les innombrables univers, est une émanation plénière de Krishna. J'adore Govinda, Krishna, la cause de toutes les causes. Ainsi, la forme personnelle de Dieu, Krishna, qui jouit de la connaissance et de la félicité éternelle, est-elle bien celle que le spiritualiste doit adorer, comme le confirme la Bhagavad Gita, cette forme de Krishna est l'originelle personne suprême, source de toutes les formes d'avatara.
Jai.
Jai.
Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? On va continuer. Virginie, veux-tu l'aider, s'il te plaît?
Oui. Alors, on en était
les écrits védiques.
Ligne 27.
Ouais. Les écrits védiques, Gopala Tapani Upanishad, un point, hein, expliquent cela également. Shakshitananda Rupaya, Krishna Ya Klishya, Karini Namo Vedanta Vedyaya, Gurave Buddhi Shakishi. Ô Krishna, toi dont la forme transcendantale est connaissance, éternité et félicité, je te rends mon hommage, mon respectueux hommage, car tu es le maître spirituel suprême, et te comprendre revient à comprendre les Védas. Et aussi, Krishna Vei Paramam Deivatam, Krishna est Dieu, la personne suprême. Gopala Tapani Upanishad 1.3. Eko Vashi Sarva Ga Krishna Idya. Krishna est Dieu, la personne suprême, et il est digne d'adoration. Eko Pisam Bauda Yo Vabhati. Bien que Krishna soit une unité indivisible, il se manifeste en d'innombrables formes et avatars. Gopala Tapani Upanishad 1.21. La Brahma Samhita 5.1 explique elle aussi fort bien ce point. Ishvara Parama Krishna Shakshitananda Vigraha Anadir Adi Govinda Sarva Karana Karanana Karanam. Krishna est Dieu, la personne suprême dont le corps est tout de connaissance, d'éternité et de félicité. Il n'a pas d'origine parce qu'il est l'origine de toutes choses. Il est la cause de toutes les causes. On trouve également Yatra Vatirnam Krishnakyam Param Brahma Narakriti. La vérité suprême et absolue est une personne. Son nom est Krishna et il descend parfois sur cette terre. Et le Srimad Bhagavatam de dresser la liste des différents types d'avatars dans laquelle le nom de Krishna apparaît avec cette mention que Krishna n'est pas un avatara, mais Dieu, la personne suprême dans sa forme originelle. Ete Chamsakala Pumsha Krishna Tu Bhagavan Svayam. Dans la Bhagavad Gita, le Seigneur déclare Mata Parataram Nanyat. Rien n'est supérieur à ma forme de Krishna, Dieu, la personne souveraine. Et également, Aham Adirhi Devanam, je suis la source de tous les devas. Enfin, lorsqu'il a compris la Bhagavad Gita, l'enseignement reçu de Krishna, Arjuna confirme sa suprématie par ses paroles. Param Brahma Param Dama Parvitram Paramam Bhavan. Je réalise maintenant pleinement que tu es Dieu, la personne suprême, la vérité absolue et le refuge de toutes choses. La forme universelle que Krishna a dévoilée à Arjuna n'est donc pas la forme originelle de Dieu. La forme originelle est celle de Krishna. La forme universelle avec ses milliers de têtes et de mains n'est manifestée que pour attirer l'attention des hommes qui n'ont pas encore développé leur amour pour Dieu. Répétons-le, elle n'est pas la forme originelle de Dieu. Les purs dévots du Seigneur sont unis à lui par divers liens d'amour absolu, n'éprouvent aucun attrait pour sa forme universelle. Du reste, dans ses échanges d'amour transcendantaux, le Seigneur suprême se montre toujours à ses purs dévots dans sa forme originelle de Krishna. Arjuna a donc vu précédemment qu'il était étroitement lié au Seigneur par une intime relation d'amitié, ne trouve donc pas particulièrement agréable de voir cette forme universelle. Bien plutôt ressent-il de la crainte, comprenant qu'il est un compagnon éternel du Seigneur, ne ressemblant en rien à un homme ordinaire, et qu'en vertu de sa vision spirituelle, il ne saurait être fasciné par la forme universelle. Les hommes qui cherchent à s'élever en accomplissant divers actes intéressés la trouvent peut-être merveilleuse, mais ceux qui pratiquent le service de dévotion lui préfère la forme infiniment chère de Krishna à deux bras.
Aïe, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Ben, c'est vraiment bien spécifié que Dieu a une forme et une identité bien particulière. C'est pas un néant, quoi. C'est pas une énergie, pour rejoindre les discussions qu'on a eues tout à l'heure. C'est encore réaffirmé que c'est la forme à deux bras qui est la forme originelle de Krishna.
Ouais. Et ce que je trouve intéressant d'observer, c'est jusqu'à quel point Srila Prabhupada nous cite tellement d'extraits des Écritures sur la personne de Krishna. Comme Prabhupada explique la différence dans une des caractéristiques d'un Uttama Adhikari, c'est qu'il peut citer beaucoup d'écritures. Alors ici, on en a un exemple, là. Comment chez le Prabhupada, c'est un à la suite de l'autre, les citations des écritures, des Upanishads, Brahma Samhita, et là aussi, les écrits védiques, Gopal Tapani Upanishad, il y a plusieurs citations. Et Prabhupada n'a pas publié de livre de Gopal Tapani Upanishad, mais dans sa grande bonté, s'il en cite, il nous donne la traduction et ça nous donne un autre point de vue que, mettons, des citations qu'il aurait mis dans ses livres. Et la Brahma Samhita, par exemple, Prabhupada n'a pas écrit là-dessus. C'est son maître spirituel, Śrīla Bhaktisiddhanta Saraswati, qui a écrit un livre sur la Brahma Samhita, et lequel livre? C'est le cinquième chapitre de Brahma Samhita. Alors, si on regarde dans les livres que le BBT a imprimé ou imprime, la Brahma Samhita, c'en est un. Mais l'auteur, c'est Śrīla Bhaktisiddhanta Saraswati. Et c'est très, on peut dire, c'est une littérature authentique, Vaishnava, mais c'est très avancé comme style d'écriture. Wow. C'est au-delà de notre capacité de compréhension, si on peut dire, jusqu'à un certain point, tellement c'est élevé au niveau du style d'écriture. Par contre, si on lit les livres de Prabhupada, ben là, à ce moment-là, c'est d'une simplicité, même si parfois ça peut sembler que c'est pas simple, pas si simple que ça, mais en général, un homme du commun peut comprendre les livres de Prabhupada. Alors, c'est une raison aussi, une des bonnes raisons pourquoi distribuer les livres de Prabhupada, parce que ce qui n'était pas manifesté au niveau de connaissances transcendantales, surtout dans le monde occidental et à travers le monde, et même pour l'Inde, les écrits de Prabhupada donne les explications, les commentaires avec suffisamment de clarté que tout le monde peut comprendre. Et c'est ça qui fait la beauté de la conscience de Krishna. Les livres de Prabhupada, les gens qui lisent les livres de Prabhupada et qui transforment leur vie à cause des livres de Prabhupada. S'il y a des questions, commentaires?
J'en avais une sur la description de Krishna sur deux bras et Narayan quatre bras. Mais ça, c'est une description matérielle, comme on avait dit que l'âme, elle a une forme spirituelle qu'on connaît pas. Alors Krishna, il y a une forme quand même spirituelle qu'on connaît pas.
Non, 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 non. C'est pas comme ça,
Non?
non. La forme spirituelle de Krishna, on la connaît, mais on la connaît à travers les Védas. Alors, on peut pas dire, mais sinon, Krishna, s'il n'y a pas de forme qu'on peut comprendre, ses enseignements, il en manque un gros bout, là. Alors, par exemple, ce que nous venons de lire, c'est que Krishna a démontré sa forme universelle à Arjuna. Mais pourquoi il l'a démontré? Parce que, un, Arjuna lui a demandé, alors il a satisfait le désir d'Arjuna. Et deux, comme Prabhupada explique ici, c'est que dans le futur, il va y avoir beaucoup de gens qui vont se prétendre ou se faire passer, vouloir se prétendre des incarnations de Dieu. Et à ce moment-là, pour vérifier la véracité de leurs propos, n'importe qui pourra leur demander, ben, si vous êtes Dieu, montrez-moi votre forme universelle. Et si vous n'êtes pas capable, à ce moment-là, vous êtes un charlatan simplement. Alors, ça, c'est une des raisons pourquoi
Alors,
aussi
ce
a
serait quoi?
démontré. Pardon?
Alors, ce serait quoi la forme de l'âme individuelle? Si on est une parcelle de Krishna, c'est quoi notre forme? Qu'est-ce qu'on a l'air, nous autres?
Ben, on a l'air de qu'est-ce que Krishna est venu nous montrer en termes de ses associés. Quand Krishna il vient avec ses associés éternels, il vient à Vrindavan. Alors à Vrindavan, il y a toutes sortes de formes qui sont spirituelles. Alors il y a des arbres, il y a des chaises, il y a des maisons, il y a des fleurs, il y a des guirlandes de fleurs à Krishna. Que Krishna porte toujours une guirlande de fleurs fraîches à tous les jours. Il y a toutes sortes de, en anglais, ils appellent ça paraphernalia, d'accessoires qui viennent avec Krishna. Et Krishna, ses associés. Krishna, ses compagnes. Il y a les gopis, il y a ses épouses. Et tout cela a des formes. Et c'est dit qu'à Vrindavan, ou dans les Vrindavan Dham, Dham veut dire le lieu d'habitation ou la demeure de Krishna, ben, le Vrindavan Dham ici sur Terre, c'est pas différent du Vrindavan, de Krishna Loka. Il y a des formes.
Mais si il y a 400 000 différentes espèces humaines, pourquoi Krishna prendrait la force humaine terrienne? Est-ce que c'est la plus avancée de toutes ou?
Non, c'est pas la plus avancée de toutes, mais c'est la plus facile. Ben c'est celle qui va prendre, et quand parce qu'il aime ça venir ici, son lieu de, si on peut dire, favori quand il vient, c'est Vrindavan. Alors les demi-dieux, quand Krishna vient, viennent sur Terre aussi pour l'accompagner dans ses divers, pour participer. Il s'incarne sur Terre pour participer, assister Krishna dans ses divertissements.
Mais il doit faire la même chose dans d'autres galaxies, dans d'autres planètes. Krishna veut dire, il vient
Oui,
pas juste.
dans d'autres univers. Alors, Krishna, quand il quitte cet univers-ci, s'en va aussitôt dans un autre univers où il va manifester encore ses divertissements éternels.
Là, il peut avoir toutes sortes de formes. C'est infini, à l'infini, veut dire, ces formes. C'est
Oui,
ça.
comme c'est dit aussi dans le Srimad Bhagavatam, premier chant, troisième chapitre, c'est dit que Krishna peut avoir, il y en a des, c'est dit, il y a, Krishna a des formes illimitées, mais dans le chapitre de Bhagavatam concerné, ils vont énumérer seulement les principales. Parce que Krishna est illimité. Alors, ne fût-ce par exemple, combien de déités de Krishna qu'on ne
On sait
sait
pas.
même pas qu'ils existent?
On sait pas. Des milliards, des milliards.
C'est dit à Vrindavan, c'est dit qu'il y a 5 000 temples. Et dans un temple, il n'y a pas juste une déité, là. Des fois, il y en a plus qu'une. Des fois, il y en a deux ou trois. Alors, multiplie ça par 5 000. Ça fait, mettons, on arrive à, mettons, 5 000 multiplié par 3.
15 000.
Ça fait 15 000. Est-ce que quelqu'un va visiter toutes les 15 000 déités qu'il y a à Vrindavan? Non.
Difficile.
Les gens vont visiter les temples principaux. Les temples les principaux. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres temples. Alors, Krishna a de multiples formes. Alors, c'est comme au temple de Montréal, il n'y a pas juste une déité. Il y en a au moins 4 déités au temple de Montréal. Il y a Radha Manohar, c'est Sigourney Thai, le Seigneur Jagannath. Ensuite, il y a Radha Madan Mohan, les petits Radha et Krishna.
Nishingadev.
Il y a Nisshingadev. Sans compter que des fois, des dévots amènent leur déité puis les mettent sur l'autel, mettons des chalagrams Shila, par exemple, qui sont d'autres formes de Krishna aussi.
C'est
Alors,
illimité.
Krishna, c'est illimité. Krishna est illimité. Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben, on chante Hare Krishna puis on essaie de servir Krishna du mieux qu'on peut en absorbant ses pensées en Krishna.
Là, c'est la déité de Krishna qu'on doit méditer dessus. C'est celle qu'il nous a donnée pour pas se perdre dans les milliers de différentes déités qui existent.
Tout à fait.
Il y a la forme de Krishna, mais Prabhupada explique aussi que Krishna n'est jamais seul.
Il y a
Krishna,
Radha.
Radharani. C'est ça. Krishna est toujours accompagné de Son énergie interne. Son
Son
énergie.
énergie de plaisir interne, qui est Srimati Radharani. Alors, quand Krishna prend une forme, ben, son énergie interne aussi prend une forme pour être avec lui. À Krishna, comme Prabhupada dit, si Krishna veut jouir d'une femme, il va pas prendre une femme matérielle. Il a une femme qu'il va prendre, et celle-là, c'est Srimati Radharani. Et son énergie interne, l'énergie de sa puissance de plaisir, c'est Srimati Radharani.
Et la puissance de la création, c'est le Shakti de création, c'est sur Radharani, on vient tous d'elle, ou il y a une autre énergie que
C'est la création, c'est comment on peut dire, la manifestation matérielle, laquelle est créée par les expansions de Vishnu. Alors, il y a Mahavishnu qui est à l'origine du Mahatattva. Ensuite, il y a Garbo d'Akshayi Vishnu qui est présent dans chaque univers. De Mahavishnu émane d'innombrables univers. Dans chaque univers, il y a Garbo d'Akshayi Vishnu. Et puis, dans un univers, il y a la planète d'un Vishnu qui est Svetadvipa. Et comme par exemple, avant que Krishna vienne, et comme c'était sur Terre rempli de démons qui donnaient beaucoup de troubles, les demi-dieux avaient peur. Et ils sont allés au bord de l'océan de Svetadvipa pour implorer la grâce du Seigneur Vishnu, pour que le Seigneur Vishnu vienne. Et le Seigneur Brahma a entendu une réponse dans son cœur que le Seigneur Vishnu va venir, retourner à vos places, en temps et lieu, il va venir, ça sera pas long. Et puis, il vient sous la forme de Krishna.
Et Balaram, lui, c'est la force, c'est quoi sa manifestation, on ne me rappelle plus.
C'est la force de Krishna. Une manifestation. Bala. Bala veut dire la force. Alors, Balaram, c'est la force de Krishna. La première émanation plénière de Krishna, c'est Balaram.
Ouais.
Alors, il accompagne lui aussi Krishna. Alors, c'est comme le Seigneur Chaitanya, il y a le Seigneur Nityananda qui l'accompagne. Et le Seigneur Nityananda, c'est une émanation du Seigneur Balaram. Les deux frères encore. Nitai Gaur et puis Krishna Balaram. Alors, c'est la grâce de Krishna. Voilà. Alors, je voulais juste raconter une petite histoire que j'ai lue aujourd'hui. Qui montre jusqu'à quel point les livres de Prabhupada ne sont pas différents de Krishna. Alors, il y avait quelqu'un, un garçon, ça se passe au Brésil, et le garçon, à un moment donné, a reçu un livre de Prabhupada. Il l'a amené chez eux, puis il l'a mis sur une tablette. Puis le livre de Prabhupada est resté comme ça pendant 10 ans. Le livre est resté sur la tablette pendant 10 ans. Et comme au Brésil, ce sont de grands fans du football, le soccer, comme on appelle ici. Alors, ce garçon-là avait vu cette grande étoile du soccer qui est David Beckham. Et David Beckham avait un tatouage en sanskrit dans son dos. Alors, ce garçon-là s'est dit, ben, j'aimerais ça, moi aussi, avoir un tatouage en sanskrit sur mon corps. Alors, là, l'idée lui est venue d'aller consulter le livre qu'il avait, parce que dans le livre de Prabhupada, il y a le sanskrit. Alors, là, il est arrivé que, au lieu de chercher des caractères en sanskrit, faire une recherche comme ça, il s'est mis à lire le livre à la place. Alors, il a lu le livre est devenu un dévot. Et ce dévot-là, il a entraîné toute sa famille à devenir des dévots aussi. Alors, juste pour montrer l'effet qu'un seul livre peut avoir sur la vie de quelqu'un, un livre de Prabhupada. Alors, ça, c'est si vous voulez lire cette histoire-là, c'est dans dandavat.com, c'est dans les histoires d'aujourd'hui. Cette histoire-là, c'est vraiment spécial. Et il y a une photo, justement, au-dessus de l'article. Tu vois un arbitre ou un joueur de soccer, je sais pas qui, là, mais tu vois sur son bras, sur l'avant-bras, c'est écrit en sanskrit. Il y a quelque chose d'écrit en sanskrit, en gros caractère, puis au-dessus aussi, je pense que c'est du sanskrit. Ah, juste pour montrer l'impact que ça peut avoir. Alors, voilà.
Mais beaucoup de dévots sont rentrés à cause d'un livre de Prabhupada. Veux dire, moi-même, je suis rentré là à cause que j'avais lu L'âge de fer, le livre que...
Solution pour un âge de fer.
Ouais, ouais. C'est ça. Dans les années 70, là, que quelqu'un m'avait donné... l'astrologue Marc Béard.
Oui, Marc Béard, oui.
C'est ça.
Et, excusez-moi. Moi-même, je suis devenu un dévot parce que, justement, j'ai acheté à l'époque les livres qui étaient disponibles. Et en particulier, le livre en anglais qu'on appelle Teachings of Lord Chaitanya, les enseignements du Seigneur Chaitanya. Ça m'a convaincu. J'étais étudiant à l'époque, mais quand j'ai lu Teachings of Lord Chaitanya, là, plus ça allait, moins j'avais d'intérêt pour les études. Et puis finalement, j'ai décidé, OK, moi je m'en vais au temple de Krishna. Je m'en vais devenir un dévot. Je voyais tous mes professeurs à l'époque, j'ai trouvé de moins en moins intéressants. Il y en avait un qui était un professeur, mais qui était écrivain. Et j'avais de l'admiration pour lui. Et parce que moi-même, j'écrivais des choses à l'époque. Mais plus ça allait, je lis la philosophie, commençais à chanter le Mahamantra, Japa, etc. Essayer d'être végétarien, ça n'a pas été vraiment difficile, ça. Offrir la nourriture à Krishna. Tout ça ensemble, au bout d'un mois, je me suis dit, « Hey, envoyez au temple, c'est trop de fun. » Et puis voilà, on a joint le mouvement de la conscience de Krishna.
J'ai une question pour vous. Ouais. Quand vous aviez votre local sur la rue Sainte-Catherine, près de la baie du Tion dans ce temps-là, faisait combien d'années vous étiez dans le mouvement?
Ça, c'était en 83. Ça faisait 13 ans que j'étais dans le mouvement.
Vous étiez très intense dedans, je me rappelle, vous aviez la télévision, les vidéos, tout avec votre famille dans ce temps-là, là, votre petite fille et votre femme et tout ça. Là, vous étiez seul à runner le centre, là, ce petit centre-là. Là.
Oui, on avait un autre garçon qui était à notre disposition pour ramasser les fonds, pour maintenir la place. Et malheureusement, à un moment donné, il a changé son fusil d'épaule. Et puis, au temple, pas au temple, mais aussi Nandi, était le président du temple à l'époque, avait un restaurant sur la rue Saint-Denis. Et le restaurant, en 85, a passé au feu. Et plus on a perdu notre garçon qui maintenait qui aidait à soulever les fonds pour maintenir ce centre-là. Tout ça mis ensemble, fait qu'on m'a demandé d'aller au temple. On a fermé la rue Sainte-Catherine et j'ai dû être président et vice-président, en tout cas selon les désirs du GBC à l'époque. Et c'était fini pour la rue Sainte-Catherine, malheureusement. Mais on avait un centre sur la rue Mansfield. Ça marchait vraiment bien. Et à un moment donné, il a fallu déménager de là parce que la ville a décidé de raser tous les bâtiments. Et aujourd'hui, ce qui donne la place Montréal Trust, mais toute cette rue-là, il n'y a aucun bâtiment qui est resté debout. La ville a tout rasé pour faire place pour la place Montréal Trust. Mais ça allait vraiment bien. On avait à peu près 75 personnes par jour qui venaient au centre, qui venaient prendre du prachad. En l'espace de 6 mois, on avait fait 6 dévots. Et ça marchait, ça. Alors, c'est toujours mon opinion. À Montréal, faut avoir une présence au centre-ville. On va faire des dévots avec le prachad et puis des classes, prêcher direct. Et puis voilà, c'est ça. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, à mercredi prochain, prenez soin de vous.
Pareillement.
Hare Krishna.
Hare Krishna.
À très vite.
Krishna.
Hare bon.
Oui, Hare bon. Merci.
Merci, Pam.
Hare Krishna.
Hare Krishna.
Hare bon. Mm-hmm.